en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série L'Essentiel est aujourd'hui Catherine Bréchignac, physicienne qui se fait un nom dans la communauté scientifique internationale grâce en particulier à ses travaux sur la physique des agrégats. Catherine Bréchignac a été de 1997 à 2000 directeur général du CNRS avant d'en être de 2006 à 2010 la présidente. Elle a été de 2009 à il y a peu présidente du Haut Conseil des biotechnologies et en octobre 2011 s'achève son mandat de présidente de l'International Council for Science, mandat qui a commencé en 2008. Catherine Bréchignac a été élue membre de l'Académie des sciences le 29 novembre 2005, puis secrétaire perpétuelle de cette académie le 22 juin 2010. Madame, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation et bravo pour toutes ces prises de responsabilité éminentes. Je rappelle le principe de notre série L'Essentiel, 7 questions récurrentes posées donc à tous les invités sur leur itinéraire, leur activité, leur regard sur le monde et notre société, leurs échecs et leurs motivations. Alors tout de suite, la première question, dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quel a été jusqu'à présent à vos yeux, Catherine Bréchignac, le moment essentiel?
Alors, tout d'abord, je voulais dire que lorsque j'entends le mot essentiel...
Vous sortez votre revolver,
je pense au Petit Prince.
Ah, oh, c'est mieux, ça.
De Saint-Exupéry, qui, lorsqu'il converse avec le renard lui dit « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Et il ajoute, un peu plus loin, « C'est le temps... » que tu as perdu avec ta rose qui fait ta rose si importante. Alors pour moi, il n'y a pas un moment essentiel, mais il y a du temps que j'ai passé des jours et des nuits que j'ai passé à faire de la recherche, à chercher un signal pour essayer de comprendre des théories que l'on avait, pour essayer de voir s'il existait une vérité scientifique dans un domaine évidemment très restreint qui était le mien. Et c'est ce temps que j'ai passé qui rend la recherche importante et, je dois dire, presque essentielle à mes yeux. Alors, ce temps passé m'a permis aussi d'avoir une certaine maîtrise de mon impatience et puis de savoir jouer avec le temps, d'avoir une rigueur dans le temps et de penser que le temps était quelque chose, non pas sur lequel il fallait aller contre, mais avec. Et en fait, même dans mon petit livre « N'ayons pas peur de la science », je fais l'éloge de l'ennui.
Alors, vous êtes physicienne, mais à la différence de pas mal de scientifiques, vous vous intéressez beaucoup aux autres disciplines, entre autres la chimie. Je sais que vous suivez de très près l'année internationale de la chimie. Qu'est-ce que la fréquentation de scientifiques d'autres disciplines vous apporte à vous?
Alors,
dans votre démarche?
De toute façon, moi je suis physicienne pour les Français, mais je suis pratiquement chimiste pour les Américains. C'est-à-dire j'ai enseigné aux États-Unis et pour eux, je suis vraiment à l'interface entre la physique et la chimie parce que lorsque j'ai commencé la physique des agrégats, bien avant que le mot nano soit inventé, je regardais aussi les propriétés de réactivité de ces agrégats et pas seulement leurs propriétés physiques. Je regardais toute la panoplie de propriétés qu'avaient ces particules de quelques atomes à quelques centaines d'atomes. Et donc, je suis vraiment à l'interface entre la physique et la chimie. Donc, je me sens presque chimiste aussi de temps en temps.
Mais ça, c'est utile quand même d'avoir cette...
C'est-à-dire que travailler à l'interface, c'est quelque chose de difficile. Parce que ou vous bénéficiez du support de plusieurs disciplines... Ou bien alors vous tombez dans le trou entre les deux disciplines parce que chacune des deux vous ignore.
Alors là, on parle d'interface, mais est-ce que vous faites partie de ceux et celles qui pensent qu'en France, il y a encore un fossé de considération entre d'un côté les sciences physiques et d'un autre côté les sciences de la vie?
Il y a les sciences avec leur raisonnement, la rigueur scientifique. D'un autre côté, on ne peut pas éviter de penser qu'il y a quand même une science qui se fait sur la matière inerte et une science qui se fait sur la matière vivante. Et que lorsque vous regardez la construction de la matière inerte et de la matière vivante, toute la matière est faite avec les mêmes atomes, mais la matière inerte va dans le minimum de stabilité, c'est-à-dire la cristallisation, alors que la matière vivante, c'est la polymérisation. Et donc, en fait, la frontière est plutôt là. Donc, il y a quand même une différence entre les deux, et on ne peut pas l'ignorer, mais elles ont des tas de points communs.
Alors, quand on regarde votre carrière, on s'aperçoit évidemment que le CNRS y a joué un rôle important. Hein. Vous avez donc, je l'ai dit, été directeur général du CNRS de 97 à 2000. Vous avez été présidente du CNRS. Quel est l'apport essentiel du CNRS au monde scientifique français? Parce que on dit tout et le contraire de tout sur le CNRS. Est-ce qu'il y a vraiment un apport essentiel?
Oui, il y a un apport essentiel du CNRS par le fait que, tout d'abord, le CNRS, c'est avant tout, je dirais, un réseau. La science se fait bien sûr dans des laboratoires. Ces laboratoires sont dans les universités. C'est parfait que les universités soient autonomes. D'ailleurs, à mon avis, elles ne le sont pas assez. Et donc, vous avez une autonomie, vous avez une compétition, normalement, entre les différents endroits qui sont autonomes. Alors que le CNRS, lui, c'est plutôt la connexion entre les choses et le réseau. C'est-à-dire que la science, la recherche, se fait sur une ambivalence qui est compétition, collaboration. Quand vous êtes en compétition, c'est le premier qui va gagner. Et quand vous êtes en collaboration, c'est parce que tout seul, vous n'arrivez pas. Donc, cette dualité, compétition, collaboration, se traduit aussi dans nos structures. Une compétition entre des universités qui normalement devraient être en compétition et une collaboration qui se fait au sein d'organismes. Donc en fait, je pense qu'on a besoin des deux structures pour construire une structure générale de la recherche.
Alors quand on regarde votre cursus, il y a quelque chose d'étonnant quand même. Année 2006-2010, vous êtes administrateur de Renault. Qu'est-ce que ce genre d'activité a pu vous apporter à vous, personnage scientifique?
Administrateur de Renault, j'étais administrateur représentant de l'État. Et donc là, j'étais un peu frustrée, je dois vous dire, parce que je ne pouvais pas dire tout ce que je voulais dire. Donc maintenant que je suis complètement libre, je suis administrateur d'éco-emballage. Et je trouve ça absolument passionnant. Absolument passionnant.
Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Parce que vous, avez, vous descendez d'un cran quand même là.
Mais pas du tout, non, pas du tout. Mais non, mais,
ils doivent regarder un peu comme...
Mais pas du tout, je trouve
vous
pas.
Vous pas le professeur Nimbus qui débarque
Mais pas du tout. Lorsque vous êtes dans votre laboratoire, vous parlez la langue scientifique avec la rigueur scientifique et vous allez très profondément au fond des choses. Et puis de l'autre côté, vous avez besoin d'avoir un socle beaucoup plus général. Et c'est dans ce socle beaucoup plus général que je puise une richesse extraordinaire. Donc, par exemple, si je reprends l'éco-emballage, je trouve que c'est un problème de société que d'essayer d'avoir d'abord l'hygiène qui avait été définie avec Pasteur, mais maintenant c'est tout le côté non-pollution par les déchets.
Alors, question bateau, pardonnez-moi, mais je vous la pose quand même. Dans le domaine scientifique, est-ce que les femmes aujourd'hui apportent la même chose que les hommes?
Je trouve que c'est plus important de voir ce que vous apportez par votre richesse personnelle,
oui.
Plus que la comparaison homme-femme. Enfin, il y a des caractéristiques, bien sûr, féminines, mais dans la recherche, c'est pas là où elles sont dominantes.
Et la difficulté de se faire une place?
Ah oui, ça, c'est évident.
Deuxième question récurrente de notre série L'Essentiel. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire, Catherine Bréchignac, sur ce que vous faites actuellement? Alors, je pense évidemment en premier lieu à votre activité de secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences. Je rappelle que vous avez été élue le 22 juin 2010.
Tout d'abord, ce qui est essentiel, c'est pas dans mon activité, c'est dans mes domaines d'activité. Parce que je me repose d'une activité en faisant une autre. Et donc, c'est pour moi extrêmement important d'avoir différentes activités où je peux passer de l'une à l'autre. Parce que quand vous vous trouvez affronter un problème, une question ou parfois même un mur que vous avez du mal à surmonter, eh bien c'est très bien de pouvoir faire digression, d'aller faire une autre activité, de penser à autre chose et vous revenez avec un autre œil.
Alors de ce côté-là, vous êtes servi, parce qu'avec tout ce que vous faites et tout ce que vous avez,
voilà,
les responsabilités françaises et étrangères.
Voilà, donc dans mon labo par exemple, je m'occupe d'un sujet qui me passionne maintenant, qui est le vieillissement des nanostructures.
Vous rappelez ce qu'est un nano? C'est le milliardième, c'est ça?
Le nano, c'est 10⁻⁹ mètres, c'est-à-dire, vous voyez, le micron, c'est 10⁻⁶ mètres, donc je dirais que c'est, pour faire simple, c'est de la poussière de poussière.
Petit prince encore.
Petit prince encore. Ensuite, évidemment, il y a le rôle à l'académie comme secrétaire perpétuel, mais on voit souvent les académies comme étant le lieu où vont se réunir l'ensemble de nos confrères et où nous allons discuter, ce qui est juste. Donc il y a toute cette partie-là de l'académie, mais il y a l'autre partie aussi du personnel de l'académie, des gens qui travaillent, qui ne sont pas des académiciens et qui font du travail quotidien. Et le secrétaire perpétuel, il est à la fois des deux côtés. Il doit à la fois être dans les séances, mais aussi s'occuper du personnel et faire que l'académie fonctionne.
Et le mot perpétuel est complètement à l'opposé du temps, non?
Justement, j'adore ce mot parce qu'on a besoin du temps. En fait, il faut s'inscrire dans la durée. C'est très important d'avoir la possibilité de s'inscrire dans la durée pour faire des choses et d'avoir du temps pour réfléchir et d'avoir du temps pour penser.
Pour découvrir.
Pour découvrir, oui, mais aussi pour imaginer. Parce qu'on met toujours le chercheur avec un savant continuus qui va découvrir la Lune. Non, il crée. C'est d'abord un créateur, le chercheur.
La différence?
La différence, c'est quand quelque chose existe, vous le découvrez. Et quand vous le créez, c'est vous qui le créez. C'est votre enfant.
Et puis le temps aussi pour le public de digérer ce que vous découvrez.
Alors ça,
non,
c'est une autre histoire.
Alors, dans vos fonctions, ici, il y a la délégation à la communication. J'ai vu que vous commenciez fort, là. Il y a une collaboration avec le Figaro qui s'instaure.
Oui.
Une page tous les mois sur les grands enjeux scientifiques. Et ça a commencé avec la question nucléaire, et vous n'y allez pas de main morte. J'ai lu un article du professeur Édouard Brézin, qui explique que nous aurions tort de ne pas tirer tout le parti possible des réacteurs de la quatrième génération. Vous êtes d'accord avec lui ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, après Fukushima, c'est le président de l'Académie des sciences, Alain Carpentier, qui a eu l'idée, et une excellente idée, de mobiliser l'Académie pour réfléchir aux suites de ce que pouvait engendrer quelque chose comme la catastrophe de Fukushima. D'ailleurs, il n'y a eu aucun mort sur le plan nucléaire. Tous les morts sont dus au séisme. Il faut quand même remettre les choses en ordre dans ce cadre-là. D'un autre côté, le danger du nucléaire existe et donc il ne faut surtout pas le négliger. Et donc il a fait demander à ce que l'Académie ait trois groupes, un groupe qui s'occupe vraiment du côté séisme, un groupe qui s'occupe du côté nucléaire et puis un sur les problèmes liés à la santé des dangers nucléaires. Et donc cette histoire de réflexion sur le nucléaire est arrivée dans ce sens-là. Alors ensuite, nous allons avoir à l'Académie des sciences une séance justement sur l'énergie et la quatrième génération versus le solaire.
Oui, mais cette affirmation-là, vous la partagez ?
Je pense qu'il faut, de toute façon...
Entendre ça aujourd'hui, ça surprend quand même.
Premièrement, prenons les choses comme elles sont. La première énergie sur la Terre, c'est l'énergie solaire. Sans soleil, on ne serait rien. On n'existerait pas, il ferait trop froid. Deuxièmement, on a besoin d'avoir de l'énergie et de l'énergie contrôlée. Et l'énergie du nucléaire est une de ces énergies contrôlées. L'énergie éolienne, ça fait bien longtemps qu'on a des moulins à vent. L'énergie hydraulique aussi. Et l'énergie nucléaire, elle est très récente quand on réfléchit dans l'histoire de l'humanité. Et c'est une énergie, à mon avis, dans laquelle il faut continuer à faire de la recherche, voir ce que l'on peut en sortir, et voilà.
Alors, vous êtes partisan de débat à l'Académie des sciences. Il y en a eu un, au moins, qui a eu des échos très forts à l'extérieur. C'est celui qui a concerné le climat. Est-ce que vous souhaitez que se développent des débats qui touchent, justement, le grand public?
Bien sûr.
À l'Académie des sciences?
On doit avoir des débats qui touchent le grand public. C'est ce que nous sommes en train de réfléchir tous ensemble, à savoir quel genre de débat nous voulons avoir.
C'est quoi? C'est la bioéthique? C'est l'écologie?
C'est les OGM? C'est l'environnement? Bien sûr, il faut absolument. On se doit d'avoir
des débats. Mais là, vous prenez des terrains qui sont quand même un peu pollués par la politique.
Mais ça m'est complètement égal, la politique, je suis scientifique, et pas du tout. Au prenant des débats pollués par la politique, n'ayons surtout pas peur des débats. Et à l'Académie des sciences, ça a toujours été. Quand vous regardez les débats sur l'atome, les débats sur
les histoires de Berthelot,
qui ne croyaient pas à l'atome, vous imaginez. Bon, maintenant, vous avez vu les débats avec Pasteur. Oui, c'est notre rôle d'avoir des débats.
Alors, j'étais à l'Académie des sciences le 11 janvier 2011, donc cette année-là. Vous avez fait un discours, et à un moment donné, j'ai vu certaines têtes qui somnolaient, qui se sont relevées. Vous avez dit ceci: en faisant fructifier notre intelligence collective, nous combattrons peut-être ainsi la bêtise collective. Hop, j'ai vu les gens sursauter. Alors, sur quel grand sujet impliquant la science, vous avez l'impression que se manifeste le plus cette bêtise collective ?
Lorsque justement la science ne suit pas ses règles de rigueur, ce qui est dommage d'ailleurs. À ce moment-là, pour moi, c'est plus de la science. C'est-à-dire lorsque on commence à mettre de l'émotion dans le raisonnement. L'émotion, c'est extrêmement
pile-poil
important.
Pile-poil le climat, alors là, on y est.
Pile-poil des tas de trucs. Le climat, les OGM, tout ce que vous voulez, le nucléaire, etc. À chaque fois que vous vous mettez le sentiment, automatiquement, ou l'émotion, je ne dis pas qu'il ne faut pas d'émotion, mais en fait, le mélange raison-émotion est un mélange très dangereux parce qu'il entraîne justement la bêtise collective, parce qu'il est beaucoup plus facile de toucher les hommes par l'émotion que de les toucher par la raison.
Si au moins on pouvait toucher les femmes un peu plus facilement par l'émotion, ça serait encore mieux. Alors, est-ce que vous seriez favorable à ce que ces débats passionnants qui ont lieu à l'Institut, à l'Académie des sciences, puissent être généralisés à l'ensemble de l'Académie? C'est-à-dire que sur les grandes questions, il y ait des personnalités éminentes de l'Académie française, des personnalités éminentes de l'Académie des sciences sociales et de l'Académie des sciences.
C'est très bien que vous me posiez cette question parce que c'est justement ce que nous pensons faire avec l'auditorium qui est en cours. C'est-à-dire que le grand auditorium, alors l'auditorium, nous avons choisi maintenant l'architecte. Et fin 2012, on devrait peut-être commencer les travaux et 2 ans plus tard, avoir un grand auditorium de 400 places qui permettrait de faire des débats avec l'ensemble de l'Institut.
Et les scientifiques sont prêts à se colter, si j'ose dire, les verres?
Oui, bien sûr. Oui. Ils sont prêts à discuter avec tout le monde.
Troisième question récurrente de notre série L'Essentiel. Alors, nous allons élargir les perspectives à votre regard sur l'évolution du monde en général et l'évolution de notre société. Catherine Bréchignac, quelle est l'idée essentielle, avec toute la part de jeu que cela implique évidemment, hein, que vous aimeriez faire passer à ce sujet, à ce propos?
Sur l'évolution de la société,
oui,
l'évolution du monde.
Votre regard sur le monde, la société. Tiens, il y a un truc qui me frappe plus qu'autre chose.
C'est pas qui me frappe plus qu'autre chose, c'est une réalité. C'est-à-dire que nous avons pris conscience que la planète était de taille finie. Et lorsque je pense à ma recherche, je vois que lorsque je mets des électrons dans un système fini, ils n'ont pas le même comportement que lorsque on leur donne une place infinie.
Ah bon?
Oui.
Et ils ont cette intelligence.
C'est pas une intelligence, c'est un conditionnement.
Je vous parle avec le langage de l'homme de la rue que je suis. Hein.
C'est un conditionnement. Et donc, le fait d'avoir une planète finie, qui n'est pas vraiment la mondialisation, hein, qui n'est pas l'uniformisation, l'exploration du nouveau monde, le fait d'aller voir ailleurs, eh bien maintenant, ça y est, on connaît tous les recoins de la planète, ça devient un jardin. De plus, la démographie qui se trouve ici, puisque nous arrivons à 6 milliards d'individus contre 200 000 au moment de l'Empire romain, fait que, voilà, il va falloir vivre de manière différente, tous ensemble. Et c'est vraiment ça, à mon avis.
C'est ça
la question clé. Parce que, alors, bien sûr, tout ça, ça va engendrer derrière, surtout de vivre différemment ensemble.
Donc, Valérie avait raison de dire, quand on lui posait la question, justement, quel est l'essentiel pour vous? Quand il disait au début du 20e, le temps du monde fini commence.
Exactement.
C'est ça. Hein.
Exactement.
Oui. Alors, dans cette perspective-là.
Mais le temps du monde fini, alors j'ai utilisé une fois cette citation, et alors tout de suite on m'a dit, mais le monde est fini. Alors maintenant j'essaye de dire de taille finie.
Alors, dans cette perspective-là, il y a évidemment la place faite à la science et au progrès scientifique. Comment réagissez-vous au fait que peut-être, alors vous allez peut-être me dire que je me trompe totalement, que peut-être pour la première fois depuis le siècle des Lumières, nous sommes la première génération qui n'est pas persuadée que ça ira mieux demain?
Ah oui, mais c'est vrai, c'est exactement les mêmes
raisons. Première génération, ça a quand même des incidences terribles, ça, non?
Oui, parce que lorsque vous êtes dans un espace, je dirais, fini ou clos, vous n'avez pas d'échappatoire. Donc, le demain, c'est aujourd'hui.
Il n'y a pas que le rêve qui est emprisonné, quoi.
La seule ouverture, justement, que l'on a actuellement, c'est une ouverture d'évasion par l'esprit. On n'est pas encore complètement prêt à l'assumer complètement.
Alors, sur ce plan-là, justement, il y a quand même un certain nombre de critiques aujourd'hui émises à l'encontre de l'univers scientifique. Alors, dites-moi si vous partagez ces critiques ou pas. La première, puisque l'on parle d'évasion, c'est cette idée que, parfois, quand on entend les scientifiques s'exprimer, on ne sait plus très bien si ça relève de la science ou de la science-fiction. Vous-même, je crois que vous avez touché un mot là-dessus, concernant les nanostructures.
Oui, j'ai parlé.
Nous, on est un peu paumés, vu de l'extérieur.
J'ai parlé du mythe nano.
C'est ça, si vous, les scientifiques, vous vous mettez à faire de la science-fiction.
Non, nous ne faisons pas de la science-fiction.
Des gens disent avec les nanos on va tout résoudre, c'est pas de la science-fiction ça?
Oui, mais c'est une erreur, c'est une absurdité même, je dirais.
Oui, mais quand c'est un scientifique qui le dit.
Alors, on peut se poser des questions, pourquoi justement un scientifique dit ça? En fait, il dit ça parce que la pollution qui vient derrière, c'est essentiellement celle de récupérer de l'argent pour faire sa recherche.
Ah, ça y est. Oui.
Donc, on arrive dans un système où même le scientifique fait croire à l'extérieur, peut-être, pas à ses collègues scientifiques, parce que ceux-là ne croiraient pas, mais ailleurs, ce qu'il est en train de trouver est beaucoup plus extraordinaire que ce qu'il trouve en réalité.
Autrement dit, ils mènent en bateau les politiques, quoi, c'est ça?
C'est pas mener en bateau, c'est une amplification, parce que vous comprenez, quand vous êtes à l'école et que vous êtes professeur et vous mettez des notes, vous pouvez mettre des notes entre 0 et 20, vous pouvez mettre des notes entre 10 et 20, vous pouvez mettre des notes entre 19 et demi et 20, et c'est la même chose.
Alors, autre chose qui surprend les gens, c'est que les grands scientifiques puissent être d'avis, non pas différents, mais complètement opposés. Alors, vous considérez que cette division est anormale, ou au contraire que c'est un signe de vitalité, vous? Que les scientifiques puissent être d'opinion totalement différentes sur des sujets clés.
Vous avez deux choses. Vous avez la vérité scientifique. Oui, je vais reprendre la phrase de Bergson, qui est évidemment « savoir, c'est prévoir pour agir ».
Donc, ça, c'est très beau, mais bon.
Vous avez des vérités scientifiques, c'est-à-dire des choses qui ne posent absolument plus du tout de problème, parce qu'elles ont été complètement démontrées par une logique déductive. Et puis, vous avez des questions. Et parfois, la science ne répond que partiellement à ces questions. Et quand la science ne répond que partiellement à ces questions, et que le politique ou le décideur ou qui vous voulez nous demande de répondre par oui ou par non, c'est là où il y a des divergences entre les scientifiques. Mais ce n'est pas sur la vérité propre scientifique qu'ils ont des divergences, c'est sur la réponse aux questions.
Autrement dit, il faudrait attendre une génération.
Alors
qui,
voilà,
qui disait
et
ça,
on revient au temps. Lorsque vous avez une découverte qui est faite, moi par exemple, je regarde ce que faisait Pierre Potier dans la découverte de ces ces médicaments pour soigner le cancer, eh bien, on mettait 15 ans. Il faut du temps.
C'est
le laser, avant d'utiliser,
ça,
oui. Il a fallu 25 ans. Donc, en fait, c'est ce temps que nous n'avons pas, parce que derrière, il y a l'économie, parce que derrière, il y a de la pression, parce que... Et donc, c'est à la réponse aux questions que les scientifiques ne sont pas toujours d'accord. Mais sur les vérités scientifiques, tout le monde est d'accord.
Donc c'est Max Planck qui disait ça, il faut attendre une génération pour...
Oui, parfois une, parfois deux, parfois deux, plus. Oui. Regardez l'atome encore une fois.
Alors l'autre dernière critique qui est formulée à l'encontre des scientifiques, vous avez évoqué là, tout à l'heure le fait que les scientifiques puissent être blousés un peu pour parler langage de la rue.
Oui, il faut faire son autocritique.
Bon, il y a quand même autre chose là, on le voit actuellement avec une certaine gêne quand même, à l'occasion de ces histoires de médicaments là. Cette collusion entre le politique et le scientifique et l'idée que les scientifiques, certains d'entre eux, ont du mal à échapper à la logique marchande. Quoi. Est-ce que vous considérez que c'est un vrai problème ça, ou que ça touche que des marges de marge ?
Non, non, c'est un vrai problème. Vous avez la science pour la connaissance, vous avez la science pour répondre à des problèmes. Et puis, un mot qu'on n'a pas encore utilisé, et que je pense qu'il faut impérativement utiliser quand on parle de la science et de la société, c'est la technologie. Alors, pour faire simple, la technologie, c'est le savoir-faire. Vous pouvez avoir du savoir-faire sans le savoir, et du savoir sans savoir-faire. Mais qu'est-ce qui touche la société ? C'est pas la science. Les gens sont plutôt contents de comprendre. Mais ce qui les touche profondément, c'est le savoir-faire, c'est la technologie, c'est le matériel qu'ils utilisent tout le temps. Et il y a une espèce de mélange entre... la science et la technologie, et c'est cette frontière qui n'est pas toujours simple à définir et qui fait que, quand vous êtes complètement dans la technologie, vous avez une valeur marchande. Vous pouvez penser à l'universalité de la science, d'un côté, et puis de l'autre côté, la technologie, vous n'avez pas d'universalité de la technologie. La technologie, elle est dans les entreprises, elle est dans le national, mais elle n'est pas universelle.
Alors là-dessus, vous avez un rayon à nous faire partager, parce que vous venez d'être présidente pendant 3 ans. C'est la Haute Assemblée des biotechnologies.
Oui, alors j'ai été présidente oui, du Haut Conseil des biotechnologies.
Oui. Alors quel est l'enjeu principal là ?
L'enjeu principal, c'est justement les biotechnologies, les technologies dans lesquelles on ne met pas que de la matière inerte, mais aussi de la matière vivante, donc, et où on utilise tout le côté de ce qu'on apprend de la biologie. Je prends l'exemple des OGM, c'est exactement de la biotechnologie. Eh bien, quand vous êtes un décideur politique, vous devez pour décider, à mon avis, avoir 2 éclairages lorsque vous posez une question. Vous devez avoir l'éclairage scientifique et vous devez avoir l'éclairage, je dirais, de la société. Et c'est 2 éclairages différents parce que le scientifique, il a une logique déductive. Mais la société, ou vous-même, quand ce n'est pas votre domaine scientifique, qu'est-ce que vous utilisez comme raisonnement ? Vous utilisez un raisonnement statistique. C'est-à-dire, vous vous dites, oh, si c'est un médicament ou une technologie qui date d'il y a 3000 ans, il n'y a pas de problème. Si elle est utilisée sur 1 milliard de personnes, il n'y a pas de problème. Mais si c'est quelque chose de nouveau, récent, etc., alors là, il y a des questions. Et donc, en fait, ce côté statistique qui nécessite après un risque, eh bien, c'est ce double éclairage qui est extrêmement important à avoir pour le politique. Et vous pouvez avoir une déduction scientifique qui vous dit « cette chose n'est pas dangereuse ». Si elle n'est pas acceptée, si la technologie n'est pas acceptée par la société, jamais personne ne pourra la vendre. Et donc, c'est là où se trouve le nœud du problème.
Mais vous-même, vous vous apercevez de cette espèce de dichotomie dans le raisonnement ?
Ah oui, parce que même moi-même, je suis obligée d'utiliser.
Oui.
Pour ma science, j'ai un certain raisonnement, mais quand c'est la science du voisin, même j'utilise ce raisonnement. Automatiquement. Si vous faites de la prose sans le savoir, vous faites de l'hypothèse ergodique sans le savoir.
Alors les garde-fous, ça peut être quoi là ?
C'est le bon sens, c'est l'esprit critique surtout.
Y compris pour les scientifiques.
Absolument.
Quatrième question récurrente de notre série L'Essentiel. Pour vous, Catherine Bréchignac, quelle est la plus grande hypocrisie de notre temps ?
À mon avis, c'est de faire croire qu'on a une solution à tout. Et que le progrès est infini. Et que la vie meilleure est ailleurs. Voilà, ça, c'est la plus grande hypocrisie de notre temps. Alors, vous pouvez le prendre sur tous les plans, sur le plan scientifique, sur le plan religieux, sur le plan, sur tous les plans. C'est ça l'hypocrisie actuelle, à mon avis.
Mais la dernière partie de votre affirmation, c'est de l'hédonisme, au fond. C'est le bonheur est ici, quoi. Nous n'allons pas le chercher trop loin.
Oui, enfin, si vous voulez, vous pouvez dire que c'est l'hédonisme. Mais non, c'est que, en fait, aide-toi toi-même. La richesse est en nous, en fait. Donc, c'est à nous à résoudre nos problèmes, à chercher un peu les solutions qui se trouvent, qu'il ne faut pas croire que les choses vont nous tomber tout cru sur la tête et que chacun doit faire un effort.
Vous avez lu Marc Aurèle, quoi.
Par exemple, oui.
Mais la plus grande hypocrisie sur le plan scientifique, est-ce qu'il y en a ? Je vous pose cette question-là parce que naïvement, je me demande si la question du risque zéro, là, relève de l'hypocrisie ou, comme vous le disiez tout à l'heure, de la bêtise ou d'autre chose.
Moi, j'aime pas ce mot hypocrisie scientifique parce qu'au niveau scientifique, c'est vraiment de la science. Mais vous pouvez avoir des gens qui font croire que c'est de la science et ce n'est pas de la science. Et par exemple, la mémoire de l'eau a été une bêtise absolument mais incroyable, incroyable.
Comment s'appelait-il déjà ? C'était un nom en iste.
Oui, Benveniste.
Benveniste, ça, oui.
C'est affolant.
Et les découvertes
histoire.
Soviétiques dans les années 30-40.
Alors, ça, c'est une question. C'est une question très intéressante parce que, justement, c'est toujours la même chose. Quand vous avez une question complexe, le scientifique ne peut pas répondre brutalement à cette question complexe. Donc, il est obligé d'avoir plusieurs apports. Et donc, c'est l'affaire de l'inné et de l'acquis. Et donc, de dire que tout était inné ou tout est acquis était une bêtise. Et justement, actuellement, on est en train de repenser cette question avec l'ouverture de ce qu'on comprend sur l'épine génétique.
Cinquième question récurrente de notre série L'Essentiel. Quel est l'événement de ces dernières années ou la tendance apparue ces dernières années qui vous laisse, Catherine Bréchignac, le plus d'espoir ?
Actuellement, on voit sortir un très gros espoir dans les sciences de la vie.
Oui.
On marche en crabe avec la science. On a eu la physique qui a pendant longtemps donné une compréhension et donc beaucoup d'espoir et qui a été réelle d'ailleurs. On a eu la chimie qui l'a fait aussi de son temps avec Lavoisier. On a eu la physique. Maintenant, c'est effectivement la connaissance des sciences de la vie qui donne effectivement un énorme espoir.
Mmh. En plan pratique, ça se traduirait par quoi et dans quel domaine ? La médecine ?
La médecine, c'est sur la compréhension de la vie. Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que le vieillissement ? Comment soigner ? Comment mieux vivre ? Ça, c'est évident. Et là, il y a des progrès considérables qui ont été faits récemment.
Et à quelle échéance des progrès qui puissent se traduire de manière très concrète dans nos vies ?
Quand vous regardez, par exemple, lorsqu'on a compris le génome et qu'on a vu le génome humain, on s'est dit, oh là, on a tout compris. Mais pas du tout, c'était le béaba. Le génome, c'est l'alphabet. Et maintenant, il y a toute la langue à écrire.
Vous parlez de ça avec un enthousiasme, je dirais, d'enfant. Vous gardez ce regard émerveillé de petit prince. Alors là, c'est quand même...
Je suis parfaitement lucide, mais de temps en temps, je m'enthousiasme parce que je trouve que, comme les ressources sont en nous-mêmes, si vous n'avez pas d'enthousiasme, qu'est-ce que vous avez ? Rien. Vous n'avez plus qu'à arrêter de vivre.
Sixième question récurrente de notre série L'Essentiel. Quel a été, Catherine Bréchignac, le plus grand échec de votre vie ? Comment l'avez-vous surmonté ou avez-vous tenté de le surmonter ? Alors, bien entendu, comme la question est éminemment personnelle, vous avez le droit d'utiliser un joker.
Le plus grand échec, je ne sais pas. Mais enfin, un échec qui m'a marqué beaucoup et qui m'a servi de leçon, ça a été après ma thèse. Donc, juste après ma thèse... Eh bien, j'ai dit au laboratoire, au directeur du laboratoire, mon directeur de thèse, je pars enseigner en Afrique subsaharienne, en Haute-Volta. Et donc, je suis partie avec toutes mes idées de réflexion, enseigner, parce qu'à l'époque, il fallait enseigner au plus haut niveau dans ces pays. Et donc, je suis partie enseigner la mécanique quantique en Haute-Volta. J'ai fait le premier cours et j'étais arrivée avec mes idées. Etc. Et puis, premier cours, j'ai eu des questions. J'avais une vingtaine de personnes, d'élèves devant moi. Tous de Haute-Volta, et donc ils m'ont posé des questions et j'ai dû repenser complètement le cours et le réécrire. Bon, très bien, je l'ai fait. Et puis je voyais que petit à petit, beaucoup décrochaient, sauf un, et je me suis accrochée à cet élève et je me suis dit, bon, c'est pas grave, même s'il y en a qu'un, c'est celui-là qu'il faut sauver. Et je me suis dit, bon, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et à peine il a eu fini, et bien qu'il est parti au Canada, il a émigré. Et ça m'a vraiment fait un choc en me disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour transmettre la connaissance ? Et donc, je suis revenue en France. Je me suis mise à travailler dans mon domaine.
Et depuis, vous avez réfléchi à ça ?
Et depuis, j'ai beaucoup réfléchi à ça. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Et à l'Académie, on travaille ensemble. On a François Gros a monté un comité sur les pays en développement. Et ma préconisation, c'est que c'est toujours la même. C'est-à-dire qu'en fait, il faut essayer de faire des choses ensemble. Et même s'il faut redémarrer à zéro, il faut faire des choses ensemble pour avancer.
Oui, mais sinon, pas de perspective de développement ensuite sur place.
Mais il faut leur trouver.
Vous leur demandez de la
sainteté,
demander,
par exemple, au niveau de la Méditerranée, il était question de mettre un synchrotron en Jordanie. Alors, tout le monde, l'Europe, mais qu'est-ce qu'on va dépenser de l'argent là-bas ? Et j'ai défendu bec et ongle le fait qu'il fallait le mettre en Jordanie.
Et on va le faire ?
Oui. Parce que si vous ne mettez pas de technologie sur place, jamais vous la trouverez. Ce n'est pas en venant leur apporter, en leur disant c'est comme ça qu'il faut faire, que les choses se feront. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui arrive d'ailleurs et qui vous dise voilà la solution. Si vous ne l'avez pas digéré, c'est la même raison que celle que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que la technologie, si vous ne l'acceptez pas, ça ne sert à rien.
C'est qu'avec beaucoup d'argent, c'est ce que font les Qataris maintenant, non ? Et les gens des Émirats, ils essayent d'implanter la recherche technique chez eux.
Oui, enfin, il faut savoir encore comment l'implanter. À mon avis, il n'y a pas d'autre solution.
Et ça reste comme votre principal échec.
Ça reste un échec fort, oui. Oui, parce que quand vous partez avec un certain enthousiasme, que vous vous dites « je vais faire ça » et puis que vous voyez qu'à la fin, ça n'a servi à rien, c'est quand même un échec.
Et vous n'avez pas eu de nouvelles de ce chercheur ?
Oh si, j'ai eu des nouvelles après, un certain temps après, oui. J'avais gardé des contacts avec lui.
Et qu'est-ce qu'il est devenu, lui ?
Il a été prof au Canada, enfin, il a fait une carrière tout à fait...
Et aucune envie de rentrer au pays ?
Aucune envie de rentrer au pays.
Et la Haute-Velta, au niveau scientifique, aujourd'hui ?
Oh, ben, il n'y a rien.
Septième et dernière question récurrente de notre série L'Essentiel. Aujourd'hui, quelle est, Catherine Bréchignac, votre motivation essentielle dans la vie ? Sacrée question, celle-là.
Le plaisir.
Ah ben voilà. J'avais raison de parler d'hédonisme tout à l'heure. Une scientifique qui parle de plaisir, ça c'est... Là, vous laissez la science de côté. Hein.
Pas nécessairement, mais oui, enfin en partie. Enfin, moi, c'est ce que j'aime, c'est rencontrer des personnes nouvelles, c'est échanger, c'est voir des régions que je ne connais pas, et puis prouver du plaisir, même au soleil, à me chauffer.
Ça peut résister à des dizaines d'années, enfin pas des centaines d'années, hein, de pratiques scientifiques, cette perspective naïve du plaisir là.
Oui, c'est intéressant cette perspective naïve. Elle est très basique en fait. C'est presque instinctif. Par exemple, vous mangez un fruit, vous avez le jus qui dégouline sur vous. C'est bon.
Comprends que vous soyez parti en Haute-Volta. Vous arrivez à garder ça.
Ah oui.
Ah, c'est merveilleux ça. J'ai sous les yeux là le mot d'un. Vous le devez le connaître, vous. Moi, je ne le connaissais pas. Edward Wilson, ça vous dit quelque chose, un écologue. Il écrivait ceci, « Le scientifique qui réussit est celui qui pense comme un poète lors des rares moments d'inspiration et travaille le reste du temps comme un comptable. » Est-ce que c'est comme ça que vous avez vécu la création, vous ?
C'est assez juste, hein. Et ça rejoint aussi un peu ce que dit Rilke quand il parle des instants d'éternité. C'est-à-dire que vous avez des passages où les choses sont extraordinairement... dense, forte, et puis qui dure l'espace d'un instant, et puis de l'autre côté, où vous faites les choses très petitement, ça repose aussi de faire des additions.
Mais cet éclatement-là, c'est un peu quantique, ça, comme perspective.
Mais la dualité, on se corpuscule, ouais. Et il faut la vivre avec aussi.
C'est extraordinaire, ça.
Ah oui, c'est extraordinaire.
Alors, vous avez cette naïveté, j'allais dire, dans la préemption du plaisir et dans l'exercice de vos fonctions de scientifique. Est-ce que vous êtes de ceux et de celles qui pensent qu'il y aura toujours quelque part pour un scientifique le non possumus, quoi, là, le truc sur lequel on bute, ou c'est une question qui vous tracasse pas hein.
Si, c'est une question qui tracasse.
Pour ça, parce que hier, je voyais
qui tracasse tout intellectuel. Hein,
on ne comprendra jamais le cerveau humain. Bon,
je ne sais pas. Je peux pas dire des choses comme ça. Je ne dis jamais, on ne verra jamais. Non, c'est pas ça. Mais c'est sûr que on n'est pas au bout de la compréhension. Ça, c'est et de très très loin. Donc là, pour l'instant...
Mais vous êtes sensible à la notion de frontière ou pas, vous, en termes de connaissances Le fait de buter, non, c'est pas ça qui vous préoccupe, quoi.
Oui, bien sûr. Si vous vous replongez dans l'histoire, vous voyez qu'on bute un certain temps, mais ensuite, il y a autre chose. À partir du moment où vous faites de la création, vous n'avez plus de frontières. La découverte a des frontières, mais la création n'a pas de frontières.
Ce que vous disiez au début, oui.
Ouais.
Mais pour nous, gens de la rue, la distinction entre les deux n'est pas évidente. Parce que la création, c'est quand même un peu une découverte, quand même, non ?
Non, il y a une différence énorme entre quelque chose qui existe et que vous découvrez et quelque chose que vous créez.
On parlait tout à l'heure des problèmes de raison et d'émotion dans le travail des scientifiques. Est-ce que vous pensez, vous, que le scientifique n'a pas à intervenir dans les questions de philosophie, de métaphysique ? Parce que régulièrement, la question se pose.
Ça, c'est une question que j'aime énormément. Parce que en fait, on ne fait pas assez de philosophie, mais de la vraie philosophie. Pas de la philosophie des sciences, je n'aime pas du tout ça. Mais de la philosophie où vous poussez votre raisonnement philosophique jusqu'au bout. Mais la chose qu'il ne faut surtout pas mélanger, c'est la raison scientifique d'un côté et la raison philosophique de l'autre côté. C'est-à-dire, quand vous voulez expliquer quelque chose à quelqu'un de scientifique et que vous n'avez pas le langage, la personne, vous essayez de lui expliquer, vous faites une métaphore. Mais quand vous faites un raisonnement, la conclusion de la métaphore n'est pas égale à la métaphore de la conclusion.
Oui, ça j'ai compris.
Eh bien, voilà. Donc, en fait, il vous faut faire du raisonnement philosophique. C'est indispensable.
Bien mettre la frontière
entre... Mais quand même, ne pas mélanger les choses comme on ne mélange pas la science et la science-fiction. Ne pas tout mélanger.
Prenons un exemple. Il y a quelques mois, ça fait un tollé dans le monde scientifique et dans le monde, d'ailleurs, des religions et de la philosophie. Le livre de Stephen Hawking, vous avez peut-être lu le Grand Dessein, avec cette petite phrase-là. Il n'est pas nécessaire d'invoquer Dieu pour appuyer sur la touche « on » et faire démarrer l'univers. Vous avez envie de dire qu'il se mêle de ses oignons ou pas ? Ou est-ce qu'il avait... Vous non. comprenez que lui le dise, ça.
Non, non, moi je comprends que tout le monde a le droit. Et
oui, mais en tant que scientifique, hein. En tant que scientifique. Donc Stephen Hawking...
Il peut le dire en tant que scientifique, mais en fait, tant qu'on n'a pas fait de raisonnement qui va jusqu'à une démonstration, vous ne pouvez pas dire que c'est une vérité scientifique. C'est pour D'accord. ça que je pense qu'il faut revenir à la vérité à scientifique au sens où elle découle d'un raisonnement.
La distinction fondamentale. Quoi.
Voilà.
D'accord. Vous avez parlé de bonheur, mais j'aimerais que vous précisiez un petit peu ça. En quoi le travail scientifique a-t-il le plus contribué à vous rendre heureuse, alors, puisque vous... On tourne autour de ça depuis le début, ce qui est rare avec un scientifique, quand même. Faut quand même le dire.
Est-ce que je suis du style Schopenhauer à dire que le bonheur, c'est l'inquiétude ?
On dirait pas.
Mais je ne pense pas.
On dirait pas.
Non. Non, pour moi, le bonheur, c'est viscéralement ancré dans
C'est une aptitude,
ouais, c'est ouais, ça. C'est une aptitude.
C'est une aptitude, ouais. Ouais. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire d'essentiel, hein ? Un jeune que la science passionne, mais qui aurait peur aujourd'hui de s'engager dans cette voie, donc compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, du débat qui s'est développé sur la science,
mais la démarche. Mais c'est la seule aventure à notre époque. Puisque maintenant, vous ne pouvez plus aller au bout du monde, vous connaissez tout, vous y allez, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous allez faire du tracking où vous voulez. Et justement, l'aventure, la vraie aventure, c'est l'aventure de l'esprit.
Et l'art, par rapport à ça, non
c'est... L'art, c'est une autre forme de création qui, justement, aiguise votre esprit à la création.
Et vous êtes pour le dialogue entre... ou ce sont des domaines qui ne peuvent pas se comprendre ?
Non, c'est des domaines qui peuvent se comprendre, mais qui ne raisonnent pas sur la même logique, mais qui peuvent se comprendre, bien évidemment.
Et vous avez besoin de cet autre univers, vous, là, ou pas ou...
Ah oui. Ah oui, oui, ça, énormément.
Et il vous aide dans votre démarche de scientifique ?
Il m'aide parfois à faire des images, oui. Avoir des images, parce qu'en fait...
Par exemple,
lorsque vous... Il vous faut dans votre tête pouvoir réduire des choses pour avoir de la place pour autre chose. Donc, en fait, il faut savoir faire des synthèses assez rapides. Et ensuite, il faut savoir l'indexer dans votre cerveau. Et l'indexation par l'image est une indexation intéressante. Donc, je me sers de toutes les images que j'ai sous la main.
Une image, par exemple, artistique qui vous a servi ?
Une image artistique qui m'a servi à
rester. C'est Rodko, Nicolas de Staël, Michel-Ange.
Non, ce serait plutôt Harpe.
Harpe.
Avec ses sculptures très lisses et ses formes.
Le bonheur tactile, quoi.
Oui, oui, ah, oui, parce ça. Que alors, oui. Alors, dans le plaisir, il y a aussi le plaisir tactile.
Ainsi s'achève cet essentiel, dont l'invité était donc aujourd'hui Catherine Bréchignac, qui, je le rappelle, a été élue le 22 juin 2010, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences. Madame, merci et merci à tous et à toutes d'être avec nous.
Merci.